Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga.
103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Abdoul Kader Konaté.
À la une de l'actualité, Ax Bamako Conakry Ouagadougou, le premier ministre malien Choguel Maïga félicite les ministres en charge des affaires étrangères des trois pays présents à Doha. Des propriétaires terriens des villages de Garguin, Kamsong Tenga crient toujours à l'injustice. Ils dénoncent une fois de plus l'opération de démolition annoncée par la Sounature. Violence anti-migrants, la Banque mondiale suspend son cadre de partenariat avec la Tunisie. Aujourd'hui, nous recevons comme invité de la rédaction le professeur sénégalais Maguey Kassé. Il est critique de cinéma et avec lui, il sera question de la 28e édition du FESPACO. Il revient entre autres sur le rôle du 7e art dans la résolution des conflits en Afrique. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Présent à Doha au Qatar dans le cadre de la 5e conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés, le premier ministre malien a discuté avec la chef de la diplomatie burkinabé, Olivia Rouamba, en compagnie du ministre malien en charge des affaires étrangères, Abdoulaye Diop, et la ministre du Plan et de la coopération internationale guinéenne, Rose Paula Prince-Mou. Choguel Maïga a félicité les trois ministres en charge des affaires étrangères pour le travail remarquable qu'ils ont effectué au sommet tripartite de Ouagadougou, mais aussi pour la concrétisation de leur unité d'action au sommet de l'Union africaine en février dernier à Addis Abeba. Nos peuples sont prêts à se donner la main et notre rôle en tant qu'exécutif, c'est de mettre en musique ce que veulent nos peuples, a déclaré le Premier ministre malien. Justement, les trois pays, à savoir le Burkina, le Mali et la Guinée, tous des pays dirigés par des militaires, envisagent une fédération en vue de pouvoir faire face au terrorisme qui endeuille les populations de la sous-région. Le premier ministre burkinabé, Apollinaire Kelem, a invité le Tchad à rejoindre la fédération Burkina-Mali-Guinée. Le samedi dernier à Ouagadougou, certains politiciens se sont exprimés par rapport à ce sujet, notamment le porte-parole du CDP, Yasser Ouedraogo. En effet, selon lui, l'idée de fédéralisme est une bonne chose, mais il espère que cela soit un rêve qui se réalise et non un agenda comme tout autre. On l'écoute au micro de Joanne Koumta et Yasmine Ebi.
On entend parler de l'idée d'une fédération entre le Mali, le Burkina, la Guinée et le Tchad tout récemment. C'est pas nouveau pour nous. Nous connaissions le premier ministre qui parle pour ses idées panafricanistes, pour son militantisme panafricain. Et donc, ce n'est pas nouveau. Mais ce que nous avons à dire ici, c'est quoi? C'est que ce soit un vœu, un rêve et non un agenda de sa part. Parce que dans le contexte actuel de notre pays, dans ce contexte de lutte contre l'irréterrorisme-là, je ne crois pas, en tout cas, qu'un autre agenda peut primer sur ce qui est d'actualité, c'est-à-dire la lutte contre l'insécurité et le retour, la restauration de la dignité de l'homme burkinabé, le retour à la sécurité, comme je le disais, et par-dessus tout, l'intérêt national qui est la survie de notre pays. Donc, pour nous, c'est bien d'avoir une vision de fédéralisme. C'est le père fondateur, d'ailleurs, là, avait lancé déjà les dés en 1960 pour créer l'OUA, et c'est mieux par la suite en Union africaine en 2001. Donc, ce n'est pas nouveau. Maintenant, il y a des priorités parmi les priorités. Et pour nous, à l'heure au Burkina Faso, ce qui prime par-dessus tout, c'est le retour à la sécurité, le retour à l'intégrité territoriale, la paix d'antan que nous sommes en train de rechercher.
Toujours sur le même sujet, pour Moussa Zerbo, le porte-parole de l'UPC, l'idée de fédéralisme est une bonne chose, mais il aurait fallu que ça soit dans des conditions où le climat est favorable. Nous l'écoutons à présent.
L'idée de fédération, en tout cas pour nous, est une très bonne chose. Mais encore, il aurait fallu que ça soit vraiment dans des conditions où le climat est vraiment favorable et s'y prête. Bon, en tout cas, vraiment, nous sommes un peu sceptiques, on est un peu regardant sur ces aspects-là. Sinon, en tout cas, personne ne peut être contre une idée de se mettre ensemble. Puisque, comme on aime le dire, l'union fait la force, hein. Les devanciers, depuis fort longtemps, ont souhaité avoir les États-Unis d'Afrique. Si les États-Unis d'Amérique sont forts, Et pourquoi pas, nous, au niveau de l'Afrique, ça peut commencer à petite échelle et aller à grande échelle. Voilà. Là encore, faut-il que les conditions soient réunies. Bon, je ne dis pas que les conditions ne sont pas réunies parce que ceux qui l'ont, ils savent de quoi ils parlent, mais en tant que profane, je l'ai dit, un regard extérieur, je me pose des interrogations.
Affaire Sonatu, des propriétaires terriens des villages de Garguin, Kamsong-Tenga, Saptoana, Possom-Tenga, Balkui et Rayongo crient toujours à l'injustice. Ils se sont retrouvés samedi dernier à la bourse du travail pour dénoncer une fois de plus l'opération de démolition annoncée par la Sonatu. Cette rencontre a réuni des propriétaires terriens avec à leur tête des chefs coutumiers et des chefs de terre. Ils bénéficient du soutien de l'ONSL, l'Organisation nationale des syndicats libres. Le président d'honneur de cette organisation, Paul Ouédraogo, était d'ailleurs de la partie. Bernabé Cabré pour le compte-rendu.
C'est une rencontre qui a réuni des habitants de Garguin, Saptoana, Kamsong-Tenga, Balkui et Ranyongo. À la Bourse du Travail ce samedi, ils ont réaffirmé leur opposition à la Sonatur qui revendique la paternité des terres. Tour à tour, les 13 chefs coutumiers et le chef de terre de Saptoana ont pris la parole devant l'assistance pour faire l'historique de l'opération de lotissement qu'ils ont eux-mêmes sollicité auprès des promoteurs immobiliers. Antoine Kafando est propriétaire terrien.
Le morcellement que nous avons fait, on a pris à peine, c'était en 2007 que nous avons commencé la procédure. Mais bien avant ça, on s'est rendu puisque nos frères voulaient morceler ça en gens non lotis. Donc nous sommes partis pour les voir. On a dit, si c'est comme ça, allons-y voir l'arrondissement 12 parce que c'est dans leur jaune. Donc nous sommes partis, les voir, ils ont dit qu'il n'y a pas de problème. On se permet de morceler, on fait jusqu'à là. Et la Sonabel vient demander les MR50, l'ONEA vient demander MR50. On avait modifié notre bornage là. Et on s'est attribué, maintenant que ces derniers temps qu'ils viennent, dédiquer c'est pour eux.
Cette rencontre a connu la présence de Paul Ouédraogo, président d'honneur de l'Organisation nationale des syndicats libres. Le plus important pour lui, c'est de sursoir à l'opération de démolition afin qu'une solution puisse être trouvée.
On ne peut pas laisser comme dedans après et revenir pour dire non déguerpisser, sans pour autant leur donner quand même ne serait-ce qu'un rapprochement pour qu'on s'essaye et discuter et trouver une solution. En attendant, ce que nous voulons, c'est de suspendre tout ça là. En attendant, parce qu'il y a trop de problèmes dans ce pays-là.
Paul Ouédraogo promet d'échanger avec le ministre d'État Bassolma Bazier pour qu'il touche son homologue de l'urbanisme et de l'habitat pour qu'une solution soit trouvée afin que chacun puisse sortir gagnant de cette affaire qui oppose les ressortissants de Garguin, Saptoana, Kamsong-Tenga, Balkui et Rayongo à la Sonatur.
Parlons santé à présent. Les troubles musculo-squelettiques, TMS, liés au travail constituent la première maladie professionnelle dans le monde avec un impact économique. Chaque année, environ 2,2 millions de personnes meurent de maladies liées au travail et près de 160 millions de nouveaux cas de maladies professionnelles non mortelles sont enregistrés dans le monde. L'Organisation internationale du travail a déjà estimé à près de 4% la part des indemnités et absences dues aux maladies professionnelles dans le PIB mondial. Comment se manifeste cette TMS et quels sont les facteurs de risque? Docteur Anisha Savadgo Bandé nous en dit plus au micro de Moumouni Tamboura.
Les troubles musculo-squelettiques sont des maladies qui vont se développer au niveau des articulations de l'homme et qui ont un lien avec le travail, avec l'exercice, avec les conditions de travail. On rencontre plusieurs types de troubles musculo-squelettiques. Selon la localisation, on a des troubles musculo-squelettiques, en abrégé TMS. Au niveau du cou, on a des troubles musculo-squelettiques qui vont se développer au niveau des épaules, au niveau du coude, des poignets, du dos. Et le mal de dos, il est vraiment fréquent dans notre pratique quotidienne. Et vous avez également des TMS qui vont se développer au niveau des genoux et au niveau de la cheville. Alors, il faut dire qu'on peut citer trois facteurs. Vous avez premièrement les postures, les mauvaises postures et les gestes répétitifs au travail qui vont entraîner une usure des articulations avec le temps. Vous avez également la manutention de charges lourdes. Alors, ça concerne le fait de porter, de tirer, de pousser des charges qui sont lourdes et cela va retentir sur les articulations.
Pour donc prévenir la maladie, Dr Anisha Savadgo Bandé donne des conseils aux entreprises ainsi qu'aux travailleurs.
Il faut dire que les entreprises doivent déjà pouvoir respecter la réglementation en vigueur. Parce qu'en matière de santé et de sécurité au travail, il y a des textes de loi au plan international et au plan national qui donnent un peu le cadre dans lequel la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles doivent se faire. Et, déjà, lorsque les entreprises respectent la réglementation en vigueur, ils arrivent à assurer une certaine protection des salariés et dans leur emploi. Donc, respecter la réglementation est le premier acte à faire pour un responsable d'entreprise. Et en respectant la réglementation, il a également un retour parce qu'il va économiser du fait que ses employés ne seront pas malades, ils ne seront pas victimes d'accidents du travail. Donc il y aura moins de perte de temps, les gens seront beaucoup plus en bonne santé et motivés pour effectuer leurs tâches. Alors oui, des conseils à l'endroit des travailleurs. Déjà, c'est de pouvoir s'informer sur les maladies professionnelles que l'on pourrait développer du fait de son travail et de savoir quels sont les moyens de prévention. Une fois qu'on a l'information, on sait comment travailler de sorte à préserver sa santé.
L'ambassade d'Italie renforce son partenariat avec le Burkina Faso en initiant le projet Lab Innova Agriculture, un projet financé par l'Agence italienne du commerce dans le but d'entamer une coopération entre les entrepreneurs italiens et ceux de l'Afrique subsaharienne. Et ce projet concerne donc trois pays, le Mali, le Burkina et le Niger. Il s'agit donc de former ces entrepreneurs de ces trois pays sur comment vendre leurs produits en Italie, mais aussi en Europe. La formation a débuté hier lundi par visioconférence. Valérie Guéret pour le compte-rendu.
Ce sont environ une quarantaine d'entrepreneurs du Niger, du Burkina et du Mali qui vont bénéficier du programme Lab Innova Agriculture. Parmi eux, 11 entreprises burkinabées ont été sélectionnées. L'objectif de ce projet est de favoriser les échanges commerciaux entre ces pays et l'Italie et les produits sélectionnés sont la mangue et la tomate. Pour Andrea Romussi, ambassadeur de l'Italie au Burkina, ce programme se tiendra sur trois phases.
In phase en ligne, in phase en présence et après, dans le mois de mai, un voyage à la foire italienne McFruit qui aura lieu à Rimini, en Emilia-Romagna, qui est une des régions principales pour ce type d'événement.
Et la phase 1 du projet a débuté aujourd'hui avec une formation en ligne. Durant 60 jours, ces entrepreneurs vont être formés sur les règles communautaires et le processus d'exportation des produits. Et c'est important pour les entreprises burkinabées de suivre cette formation, selon l'ambassadeur italien.
Donc, des partenaires burkinabés pour développer un secteur dans lequel ils sont déjà positionnés. L'accès au marché européen, c'est une chose importante, mais c'est pas simple, c'est une question compliquée parce qu'il y a tout un acquis normatif qu'il faut connaître. Il faut connaître aussi comment les marchés bougent.
En plus de la formation en agriculture, d'autres programmes sont prévus par le projet Lab Innova. Il s'agit de la formation en aviculture prévue se tenir le 27 mars prochain.
Actualité internationale, la Banque mondiale va suspendre jusqu'à nouvel ordre son cadre de partenariat avec la Tunisie, qui sert de base de suivi par le conseil d'administration de l'institution afin d'évaluer et accompagner le pays dans ses programmes d'aide. Dans un courrier adressé à ses équipes, le président de la Banque mondiale, David Malpass, explique que l'institution n'était pas en mesure de poursuivre ses missions sur place compte tenu de la situation, alors que la sécurité et l'inclusion des migrants et minorités font partie des valeurs centrales d'inclusion, de respect et d'antiracisme de la Banque mondiale. Concrètement, l'institution ne peut plus lancer de nouveaux programmes de soutien avec le pays tant que son conseil d'administration ne s'est pas réuni et Elle a décidé de remettre à plus tard cette réunion sur la Tunisie jusqu'à nouvel ordre.
Omega Sport.
Actualité sportive, les Lionceaux du Sénégal poursuivent leur parcours sans faute en Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. En demi-finale hier, lundi, ils ont battu les Aiglons de la Tunisie 3-0. Les Lionceaux continuent d'impressionner dans cette compétition et n'ont fait qu'une bouchée de la Tunisie grâce à un but de Pape Demba Diop et un doublé de Lamine Camara. Cette finale sera donc un derby entre le Sénégal et la Gambie qui s'est également imposé face au Nigeria, la nation la plus titrée dans l'histoire du tournoi avec 7 sacres. Adama Bojang a marqué son 4e but du tournoi, le seul de la rencontre, après avoir échoué à ce stade de la compétition en 2007 et en 2021 du moins, les Gambiens se hissent enfin en finale. La finale aura lieu le samedi 11 mars prochain à 17h, temps universel.
La revue de presse.
Ce mardi 7 mars, veille de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, les quotidiens du jour ont une pensée pour l'autre moitié du ciel. Tous sont donc unanimes en raison de la situation sécuritaire délétère au Burkina. L'heure ne doit pas être à la fête, mais plutôt à la réflexion. La revue de presse de ce jour porte la signature de Brigitte Yoda.
Les 8 mars se suivent, mais ne se ressemblent pas. Titre Le Pays à jour J-1 de la Journée internationale des droits des femmes au Burkina. La preuve, s'il en est qu'à l'occasion, il n'est prévu aucune cérémonie officielle, commente le journal des 1200 logements, pour qui les autorités, visiblement, n'ont pas la tête à la fête. Elles n'ont même pas fait imprimer un pagne comme cela se faisait les années précédentes. C'est sans doute pourquoi l'observateur Palga parle d'une journée de la femme sans pagne à sa une. Dans notre contexte d'insécurité actuelle, l'Express du Faso, lui, jette un regard sur les femmes déplacées internes. Rappelons que c'est leur dernier souci le 8 mars, qu'elles sont plutôt en quête de sécurité afin de pouvoir retourner dans leur localité d'origine. Notre confrère tient à leur faire savoir qu'on ne les a pas abandonnées ou oubliées. Le 8 mars doit être célébré sous le signe de la résilience, titre Sidoya, relayant les propos de la ministre en charge du genre Nandi Somé. Et à cet effet, l'Express du Faso invite les associations et autres organisations féminines qui se trouvent en ville à mener la réflexion pour voir comment apporter leur contribution dans cette lutte contre le terrorisme. Abondant dans le même sens, le pays invite pour sa part à soutenir plus la femme rurale, surtout dans la promotion des activités génératrices de revenus en vue de son autonomisation financière. Aujourd'hui au Faso, lui s'intéresse à un autre sujet, l'accusation de déstabilisation contre les Occidentaux par Touadéra. Ce 5 mars, dans la capitale qatari, le président Faustin Archange Touadéra a indexé les Occidentaux de semer la zizanie en République centrafricaine. C'était lors de la 5e conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés, lance le journal qui se demande si la Centrafrique est soumise depuis son indépendance à un pillage systématique facilité par l'instabilité politique entretenue par certains pays occidentaux ou leurs compagnies qui financent des groupes armés terroristes dont les principaux leaders sont des mercenaires étrangers. De qui parle-t-il au juste ? Questionne aujourd'hui au Faso. En tout cas pour le journal Ouagalais, s'en prendre aux Occidentaux, c'est quasiment vouloir se gratter pour rire, car il y a longtemps que ce pays est la propriété des groupes armés qui se servent sur la bête. Se demandant encore si Touadéra est qualifié actuellement pour vitupérer contre l'Occident, lui qui vient d'obtenir l'aval de la France et des États-Unis, l'éloignement de l'ex-président François Bozizé, notre confrère affirme qu'il gagnerait à d'abord unifier le pays, créer la cohésion, et les Occidentaux ne pourront que constater et rester tranquille, citant que ce sont eux la source du problème centrafricain, conclut aujourd'hui au Faso.
L'invité du jour.
L'invité du jour.
Aujourd'hui, nous recevons comme invité de la rédaction le professeur sénégalais Maguey Kassé. Il est professeur en faculté des lettres et sciences humaines à l'université Cheikh Anta Diop. Il est également critique de cinéma et avec lui, il sera question de la 28e édition du FESPACO. Il revient entre autres sur le rôle du 7e art dans la résolution des conflits en Afrique, la question du financement de ce secteur, mais aussi son regard vis-à-vis du film de Apolline Traoré qui a manqué l'or, à quelques détails près selon lui. Il répond aux questions de Abdulaziz Zoulabou.
Vous avez participé au 28e FESPACO qui a refermé ses portes samedi dernier. Le Burkina qui a organisé ce FESPACO malgré la crise qu'on connaît. En quoi le cinéma pourrait aider à juguler de tels conflits en Afrique?
Écoutez, d'abord, le thème de la 28e édition du FESPACO de cette année était placé sous le signe de cinéma et paix, en quelque sorte. Donc, à lui tout seul, ce thème montre bien l'importance que le FESPACO, qui est quand même la première organisation africaine de festival sur le continent, accorde à un problème aussi important que la paix, puisque les pères fondateurs du FESPACO avaient à cœur de créer un cinéma qui non seulement se charge de montrer le visage de l'Afrique, l'identité de l'Afrique, les problèmes auxquels les Africains sont confrontés et les voies et solutions par lesquelles, par l'image, on peut imaginer trouver des solutions, de discerner le vrai du faux. Donc, étant donné que le cinéma est un outil de conscientisation, est un outil d'éveil de conscience, est un outil d'éducation, je crois que les films qui ont montré cela pendant cette 28e édition ont beaucoup de mérite. Voilà un petit peu ce que je voulais dire. Et donc, c'est tout à l'honneur du FESPACO d'avoir mis l'accent et le doigt sur ça, puisque les forces qui s'occupent de la sécurité, de la stabilité du Burkina, et qui ont invité aussi leurs homologues qui ont connu et qui continuent de connaître les mêmes situations, notamment le Mali qui était le pays invité d'honneur, je crois que c'est aussi à mettre à l'actif positif du FESPACO.
Et qu'est-ce qu'on pourrait retenir du film Sira de Apolline Traoré que vous avez pu découvrir?
Mais c'est un film qui est très fort, c'est un film qui est très sensible et c'est un film qui est très actuel. Il est sensible puisqu'on y parle de la vie des gens, on parle de leur destin qu'ils ne maîtrisent pas, un destin qui les frappe alors qu'ils ne s'y attendent pas. C'est un film très sensible puisque la promesse de mariage qui a été gangrenée par ce qui s'est passé avec les terroristes, parce qu'on ne peut pas les appeler autrement. C'est un film qui est très éducatif aussi et qui est très actuel, puisque ce qui se passe aujourd'hui est reflété dans ce film. Des gens qui sont kidnappés, surtout des femmes, dont on abuse, la violence qui l'accompagne, l'ignorance aussi des auteurs de ces enlèvements, de cette situation difficile. Et il fallait le courage d'Apolline Traoré pour mettre en film, justement, puisque le thème de cette année, c'est la guerre et la paix, plutôt la paix, sous-entendu la guerre. Donc le film appelle à plus de retenue, plus d'engagement en faveur de la paix, puisque sans la paix, on ne peut rien faire. Donc Apolline a réussi la gageure de filmer avec une thématique très, 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 très actuelle et très intéressante qu'elle a réussi à merveille, dans un décor qui est sublime. Les images sont très, 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 très belles. Et elle a réussi à avoir un jeu d'acteurs très cohérent. Les acteurs sont bien dirigés et les dialogues sont très, 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 très bien faits. Et donc, c'est un film qui, peut-être, à quelques aspects près, aurait pu remporter les talons d'or du Yenenga. Donc, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, un film que j'ai regardé avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'enseignements aussi que j'en ai tiré.
Depuis plus de 15 ans, soit 8 éditions maintenant, hormis les deux victoires du même Alain Gomis pour le Sénégal, l'Afrique de l'Ouest semble incapable de remporter les talons d'or. C'est quoi le problème, à votre avis?
Écoutez, d'abord, si on se cantonne à les talons d'or, la question des festivals, c'est pas une question de course de vitesse. C'est une compétition sur le plan esthétique, c'est-à-dire que des films de grande valeur sont sélectionnés et qui dit des films dit forcément qu'il faut en tirer un, deux ou trois étalons d'or, d'argent ou de bronze. Donc le fait que le Sénégal ait eu deux étalons d'or est déjà quelque chose d'important, mais ça signifie également que les cinéastes doivent faire peut-être preuve de plus d'originalité, de plus de rigueur dans le traitement des thématiques, dans les histoires qu'ils racontent dans leurs films. et que ces cinéastes doivent épouser, puisque c'est ça aussi la caractéristique du FESPACO.
Il y a aussi la question du financement qui se pose de plus en plus. Les films d'auteurs ont-ils encore de l'avenir en Afrique, ou bien on va basculer peut-être vers des productions du type Nollywood?
Bon, ça, il dépend des politiques qui sont menées par les différents États, avec le chef de gouvernement, le chef d'État et les ministres en charge du secteur de l'art. Il faudrait imaginer un accompagnement institutionnel des États pour peut-être aller avec les cinéastes vers de grosses maisons de production.
Et c'est la fin de ce journal réalisé par Fidèle Compaoré à la retransmission Facebook Ibrahim Niaouné. À la présentation, je suis Abdoulkader Konaté. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Radio Omega.
Radio Omega, l'info en direct.